CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, vous écoutez Radio VCE. Pour la deuxième semaine consécutive, c'est moi-même, Jonathan Bord, qui est à l'animation en remplacement temporaire de Jonathan de Nuit. En attendant, autour de la table se trouve Monique Couteau.
Je vais vous parler de la suppression de 10 milliards d'euros de crédits, les économies supplémentaires pour tous les ministères annoncés par le gouvernement et les conséquences de ces mesures.
Très bien, enfin très bien, on s'entend. Ensuite, Alain de Frémont, je crois que tu vas nous parler d'un musée parisien.
Oui, parmi les nombreux musées gratuits de la ville de Paris, je vais vous parler aujourd'hui du musée Bourdel.
Parfait. Et enfin, Monique, à nouveau, pour la seconde semaine consécutive également, tu reçois Gary du journal Le Chiffon. De quoi allez-vous nous parler ?
Alors oui, Gary revient pour nous parler cette fois des Jeux Olympiques et de l'analyse qui en est faite par son journal.
Peut-être sera-t-elle différente de la campagne d'affichage de la mairie de Chaville.
Oui.
Vous en serez juge.
Peut-être.
On démarre tout de suite. Monique Couteau, dossier du quotidien, c'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors Monique, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette mesure de coupe budgétaire ?
Eh bien, une croissance moins importante que prévue. En septembre, Bercy annonçait une prévision de croissance du PIB de 1,4%. Et finalement, Bruno Le Maire a annoncé dimanche 18 février que les prévisions de croissance pour 2024 étaient de 0,9%. Et du coup, le décret de la suppression de crédit est paru dès le jeudi 22 février au journal officiel. Alors, de nombreux programmes budgétaires, jugés pourtant hautement prioritaires, voire désignés comme grande cause nationale par le gouvernement lui-même, se voient privés de sommes se chiffrant en millions d'euros. L'Association des maires de France, qui craint les conséquences pour les collectivités locales, estime d'ailleurs que le gouvernement ne respecte pas les règles fixées par la loi d'orientation des finances publiques, qui fixe qu'un simple décret d'annulation de crédit ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts par les lois de finances afférentes de l'année en cours et qu'au-delà de ce seuil, une loi de finances rectificative est nécessaire. Or, les 10 milliards d'euros ponctionnés par décret représentent 1,7% de ce total, à suivre donc.
Effectivement. Alors à ce stade, quel est le ministère qui va être le plus impacté ?
Le ministère de la Transition écologique, avec plus de 2 milliards d'euros supprimés, alors que l'exécutif ne cesse de répéter que le changement climatique est au cœur de ses préoccupations, et alors que les derniers mois ont été marqués par une accélération des catastrophes comme les sécheresses ou les inondations. Le fonds vert, qui est un levier essentiel du soutien à la politique environnementale des communes, est amputé ainsi de 20% de son budget, soit 500 millions d'euros. Il faut ajouter en plus 56 millions d'euros enlevés au programme paysage, eau et biodiversité, c'est-à-dire l'équivalent de 10% de son budget, 950 millions d'euros à celui énergie, climat et après-mine, et même le budget prévention des risques se voit privé de 60 millions d'euros. À tout cela, ajoutons qu'à l'occasion de la crise agricole, les discours contre les normes environnementales sur les pesticides ont fleuri et les propos d'une partie de la droite et de l'extrême droite contre la soi-disant écologie punitive ont été bien répercutés par certains médias. Le résultat, la mise en pause du plan Ecophyto. C'est désastreux et dans le contexte actuel totalement irresponsable.
Effectivement, c'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. C'est quoi la suite ?
Eh bien, l'éducation. L'école, la mère de toutes les batailles, comme le disait hier Gabriel Attal lors de sa prise de fonction comme Premier ministre, devra se passer de 700 millions d'euros. Tous les programmes budgétaires de l'éducation nationale sont touchés. 138 millions de moins pour l'enseignement public du premier degré, 123 millions de moins pour le second degré, 260 millions de moins pour le programme Vie de l'élève, celui qui permet en particulier de rémunérer les personnels d'assistance éducative et les AESH. Or, l'État venait de s'engager à prendre en charge les AESH sur le temps de la pause méridienne pour soulager les communes qui, face aux problèmes, le faisaient parfois sur leur propre budget ou d'autres communes qui, faute de moyens, se trouvaient dans l'impossibilité d'accueillir dans de bonnes conditions certains enfants. Rappelons que AESH, ce sont effectivement des personnes qui sont là pour aider les enfants en situation de handicap. Donc on a de quoi être très inquiet. Et que dire de la recherche et de l'enseignement supérieur qui perdent plus de 900 millions d'euros ? Et on pourrait là parler de l'état de la recherche publique, il y aurait beaucoup à dire.
On pourrait,
voilà. Et alors que les associations et syndicats d'étudiants n'ont cessé d'alerter sur la dégradation des conditions matérielles d'existence des étudiants, notamment en matière de nourriture et de logement, le gouvernement a entériné une baisse de 125 millions d'euros du programme Vie étudiante, ce programme qui finance notamment les CROUS, c'est-à-dire les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, qui gèrent les restaurants et cafétérias universitaires, les résidences logements universitaires, toute l'aide sociale et donc les bourses, et qui aide aussi à la recherche d'emploi pour les étudiants qui en ont besoin. Alors dans un autre secteur, je continue dans les bonnes nouvelles, le handicap et la dépendance subissent 230 millions d'annulations de crédits. La jeunesse et la vie associative 130 millions, ce qui correspond à 14,4% de leur budget. Alors que dans un contexte de crise sociale, les associations sont de plus en plus réquisitionnées pour pallier les manques de services publics et les carences de l'État. Et pour l'égalité entre les hommes et les femmes, 7 millions de moins sur un budget déjà ridicule de 77 millions d'euros. Enfin, le plan France très haut débit, avec 37 millions en moins, perd 39% de son budget. Les inégalités entre les territoires ne sont pas prêtes d'être comblées.
En effet, et on n'a pas encore parlé du logement, dont on dit quand même que c'est une bombe sociale à retardement.
Eh bien, 300 millions de moins pour l'aide au logement, alors que nous sommes effectivement en pleine crise du logement, auquel il faut ajouter 358 millions de moins pour le programme urbanisme, territoire et amélioration de l'habitat. Ce programme qui comprend notamment la lutte contre l'habitat indigne, l'amélioration du parc locatif ou encore le soutien à l'accession à la propriété. Ces secteurs sont essentiels pour la gestion des collectivités locales. Si on ajoute que la politique de la ville perd 49 millions d'euros et que les infrastructures et les services de transport perdent 341 millions, soit 7% de leur budget, on a de quoi craindre que la bombe à retardement n'explose plus vite que prévu. L'inquiétude était déjà grande quant à l'annonce du gouvernement en janvier. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ministère du logement. Ces annonces ne sont pas de nature à nous rassurer, ni à rassurer les associations qui dénoncent le mal logement.
En effet, merci Monique pour ce tour d'horizon. Pour celles ou ceux qui se demanderaient quels impacts ça peut avoir, c'est effectivement, ça va toucher beaucoup d'administrations, toutes les collectivités territoriales également, puisque si on pense à la santé, ou à l'éducation, au transport, au logement, ça va contraindre les collectivités locales à se substituer aux défaillances de l'État ou à elles-mêmes sacrifier des pans de leurs services publics locaux si elles ne peuvent pas faire face, car les budgets des communes, on le sait, doivent être équilibrés entre recettes et dépenses. C'est quelque chose qu'on suit chaque année dans les budgets municipaux. Donc changer de politique, ça veut dire s'attaquer peut-être aux recettes, hypothèse, par une politique fiscale plus juste, qui n'épargne ni les grandes industries, ni les grosses fortunes, ni les pollueurs. On voit que ça n'est pas exactement à l'ordre du jour. Merci Monique. Tout de suite, on passe à la rubrique bande-annonce avec Alain de Frémont.
Bande-annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Depuis la gare de Paris-Montparnasse, vous pouvez accéder au musée Bourdel par la rue Antoine Bourdel. Dès l'arrivée dans le jardin sur rue, on est impressionné par les gigantesques sculptures qui s'y trouvent. L'entrée du musée est gratuite, comme un grand nombre de musées de la ville de Paris.
Qui était Antoine Bourdel ?
Né en 1861, il est le fils unique d'Émilie Reille, fille de Tisserand, et d'Antoine Bourdel, menuisier ébéniste, qui sculpte les meubles qu'il dessine. À l'école, l'enfant Antoine manifeste de si vives dispositions pour le dessin que son maître M. Rousset lui accorde toute liberté de les exprimer. Et pour cela, il est installé tout à part des classes dans une sorte de vestibule. À l'âge de 13 ans, Bourdel entre dans la boutique paternelle comme apprenti. Le soir, il suit les cours de l'école de dessin de Montauban, où il s'initie à la technique du modelage, d'après des copies de plâtre antique. Le talent du jeune ébéniste lui vaut bientôt la reconnaissance des amateurs montalbanais. En 1876, il obtient une bourse et le concours d'admission à l'école des beaux-arts de Toulouse. En 1885, il s'installe à demeure dans l'atelier du 16 impasse du Maine, qui est aujourd'hui la rue Antoine Bourdelle, à l'emplacement du musée actuel. Il y vit pendant 40 ans dans le quartier d'artistes de Montparnasse. Il collabore avec Rodin pour y installer un enseignement libre de la sculpture.
Alors, en effet, alors est-ce qu'on peut dire qu'il a rencontré un succès ?
Oui, il est assez vite reconnu comme un grand sculpteur et il étend donc son territoire autour de chez lui en ouvrant plusieurs ateliers. Certains espaces sont conservés aujourd'hui dans un état exceptionnel.
Oui, est-ce qu'il y a une œuvre de lui en particulier qui serait particulièrement célèbre ?
Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas dans l'école, mais lorsque j'étais élève, on avait la figure la plus connue, Héraclès Archer, qui exposait en 1910, qui lui vaut un succès considérable. D'ailleurs, ce chef-d'œuvre, comme je vous le disais, est partout reproduit, y compris sur les cahiers d'écoliers. Mais il a décoré aussi en 1900 l'intérieur du musée Grévin.
Et comment se présente le musée Bourdelle finalement ?
Alors c'est sous une forme d'un parcours autour de deux jardins peuplés de sculptures, d'un atelier de peinture, d'un atelier de sculpture et du gigantesque hall des plâtres qui accueille des monuments absolument extraordinaires. Des visites guidées sont proposées aux familles. Et ce qui ne gâte rien, après la visite à l'étage, à l'emplacement de l'appartement de Bourdelle, on trouve un petit restaurant charmant qui propose une nourriture faite maison délicieuse et à des prix très abordables.
Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Alain. C'est vraiment à recommander. C'est vraiment à deux pas, à moins de 10 minutes de la gare de Montparnasse. Et pour y être allé l'été dernier, voilà, je ne peux également que me joindre à cette chaude recommandation. Il y a des pièces tout à fait impressionnantes. Mais tout de suite, on enchaîne avec Monique Couteau, qui reçoit pour la seconde semaine consécutive Gary du journal Le Chiffon.
De parole avec Diane Lafront.
Eh bien, rebonjour Gary, nous sommes ravis de vous revoir. Alors cette fois, sur un sujet précis, puisque dans le numéro 11 du Chiffon, vous consacrez tout le journal aux Jeux Olympiques. Alors pourquoi un numéro spécial sur les Jeux Olympiques ? Parce qu'on a effectivement l'impression d'en entendre déjà beaucoup parler autour de nous. Voilà, il y a peut-être des choses spécifiques à dire.
Oui, on a fait pour la première fois un numéro spécial. Les 20 pages sont consacrées à un sujet, alors qu'auparavant, on faisait des dossiers qui consacraient la moitié du journal à une thématique. On l'a fait d'ailleurs sur l'alimentation, sur les métropoles, comme je disais la semaine dernière, sur la start-upisation de l'Île-de-France, sur la numérisation de l'école. Et là, on s'est dit, il faut qu'on se colle quand même à une grosse actualité parisienne et francilienne, les JO. Pourquoi ? Eh bien, parce que il nous semble que les Jeux Olympiques font partie de ces grands événements qui vont faire l'objet, vont susciter une mise au pas sociale tous azimuts, générale, de l'école, du milieu de la culture, du milieu de la production industrielle, du bâtiment notamment, etc., au service de la célébration olympique. Donc pour nous, il y a un besoin d'unanimité olympique créée par l'État notamment, par la région, par la ville de Paris, par les départements, par les collectivités territoriales, qu'il s'agit de remettre en question, parce que pour nous, les Jeux Olympiques s'inscrivent dans un cadre plus général du sport, du phénomène sportif, comme un phénomène moderne, qu'on pourrait dater ou dire qu'il a deux siècles, et qui s'est développé, intensifié, on va y revenir par la suite, je pense, qui reste très largement incontesté. Aujourd'hui, critiquer le sport est quelque chose de particulièrement difficile, quasiment inexistant. Et donc, on pense que le sport et l'olympisme, qui est un peu la pointe avancée de la défense du sport, est une modalité du religieux à notre époque. Donc, on a voulu se situer aussi à ce niveau de compréhension dans notre numéro spécial, donc, qui est sorti pour l'hiver 2023-2024.
Oui, alors dans ce numéro, effectivement, hein, vous abordez de nombreuses critiques hein, vis-à-vis de l'olympisme, mais peut-être tout d'abord, vous pouvez nous parler d'un aspect peut-être plus difficile d'accès, mais fondamental, et nous dire ce qu'est le PPR, le programme prioritaire de recherche, les projets Fulgur et Paraperf, qui ont, d'après certains physiciens chercheurs au CNRS, modifié complètement le paysage de la recherche scientifique dans le sport.
Oui. Alors, s'est lancé un programme prioritaire de recherche qui s'appelle Sport de haute performance. Il se met en place le 1er avril 2019 comme un mauvais poisson d'avril par Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et par Dominique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Un objectif annoncé, je les cite, financer des projets de recherche dans le domaine de la performance sportive dont les résultats seront exploités par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques français. L'idée, c'est de mettre du pognon de dingue sur la recherche scientifique, 20 millions d'euros pour 600 sportifs de la délégation olympique française pour aller chercher des médailles. C'est pour le dire simplement, il s'agit quand même de ça. Dans un contexte où Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, et Emmanuel Macron ont la perspective de doubler le nombre de médailles olympiques par rapport aux JO de Tokyo qui devaient se tenir en 2020 et qui se sont tenus en 2021. Donc en fait l'idée c'est de passer d'une quarantaine de médailles à 80. Pour ça, comment faire ? Investir, comme l'ont fait les Anglais à partir des années 2000, investir massivement pour optimiser la performance sportive et maximiser ses chances dans la course à l'échalote olympique de triompher. Donc ça s'inscrit comme une forme de soft power pour la domination symbolique des États et en l'occurrence de la France. Donc le PPR Sport de haute performance, c'est 12 projets sélectionnés qui vont approfondir des thématiques spécifiques de recherche et qui vont mettre à profit la recherche dans les neurosciences, dans les biotechnologies, dans l'informatique, dans la réalité virtuelle, donc dans le big data notamment, pour améliorer prétendument les performances sportives. Il y a une perspective aussi importante, c'est, comme ils le disent, l'optimisation du couple homme-machine. Voilà, donc on va revenir un petit peu dans le détail. J'embraye tout de suite sur Fulgur.
Le projet Fulgur, oui.
Donc Fulgur, c'est un de ces 12 projets qui veut caractériser le profil physique et psychologique des athlètes. Comment il s'y prend ? Eh bien, premièrement, il va lancer une application qui s'appelle Athlète 360, application qui va avoir pour but de recueillir, ça se télécharge sur l'ordiphone des sportifs, qui va avoir pour but d'agréger un certain nombre de données sur la vie quotidienne du sportif, sommeil, insomnie, quantité mangée, qualité des urines, nombre de repas ceci, verre d'alcool cela, voilà. L'idée c'est de comprendre un petit peu les habitudes des sportifs et faire des recommandations physiologiques, hygiéniques, etc., alimentaires, pour optimiser la vie du sportif. Donc cette application, donc elle est utilisée aujourd'hui notamment par l'équipe du rugby à 7. Dans l'athlétisme aussi, elle est assez importante et elle va alimenter le projet qui s'appelle Sport Data Hub, qui est une grosse machine à agréger toutes ces données des sportifs qui vont s'y prêter volontairement, pour ensuite tenter d'analyser ce qui se passe, faire des modèles prédictifs, dégager des moyennes qui peuvent expliquer que telle variable recueillie pourrait avoir un lien avec telle performance. Mmh. Voilà. Et donc l'idée, c'est une modélisation informatique de la performance pour l'amélioration sportive. Et ça, ce qui nous semble tout à fait important, ça va alimenter un autre projet qui s'appelle Detect, qui veut dire détection et estimation des champions et des talents. C'est-à-dire que c'est un modèle informatique qui va nous dire, il faut parier, telle fédération, vous auriez intérêt à parier sur tel sportif plutôt que tel autre, au vu des données qu'on a agrégées. Voilà. Mmh. L'idée étant de choisir les bons pions. Donc voilà, nous, on voit ça de manière un petit peu critique, assurément. Donc ça, c'est un des 12 projets qui a lieu à l'INSEP, hein, où on a enquêté. L'INSEP, qui est l'Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. Mmh. Et un deuxième projet est développé là-bas, parmi d'autres, donc Paraperf, qui est un des projets sur le paralympisme. Alors paralympisme qui est assez stratégique dans la recherche dans le domaine, parce que les gens qu'on a pu rencontrer nous ont dit, l'Agence nationale du sport, le ministère, nous autres estimons que il y a un potentiel de médaille plus important dans le paralympisme, une marge de progression plus importante que dans le sport valide. Et donc, paraperf, quel objectif ? Amélioration du couple fauteuil sportif et mise en place de classement, là aussi. C'est là le lien avec le projet Detect et le Sport Data dont je parlais. Je crois que c'est depuis 2010, il y a l'obligation de publier dans les compétitions internationales les performances et les caractéristiques des sportifs. Donc tout ça est agrégé. Et là aussi, on en fait des moyennes statistiques. Et voilà, encore une fois, fédération, ministère va choisir la composition de la délégation en fonction de ces calculs.
Je pense, il y a une question qui me vient comme ça, parce que je me dis, tous les États qui concourent aux Jeux Olympiques ont-ils les moyens d'une telle politique ?
Et non. Ce que nous a dit Christophe Clanet, qui est un des pontes de ce programme de recherche et de la recherche en physique fondamentale sur le sport, il disait, alors il ne nous l'a pas dit à nous, non, il l'a dit dans un article de la revue du CNRS en 2019, je crois, il disait, on voit un lien évident entre les montants investis par les États dans la recherche et leur classement. Chine, États-Unis, Russie, Angleterre, France, Allemagne, etc. En fait, ceux qui ont le plus fort PIB sont ceux qui sont en haut du classement. Alors, maintenant, 4 ans après, il semble avoir un petit peu changé d'avis. Quand je lui rappelais ses propos, il me disait « Oui, mais regardez, sur le 20 000 mètres, c'est le Kenya, c'est machin. » Voilà, on trouve les exceptions pour justifier la règle, en fait. Donc voilà, nous, ce qui nous a questionné, c'est est-ce qu'il n'y a pas là une inégalité fondamentale, en fait ? Une forme de, voilà, d'asymétrie. Et plus largement, est-ce que ces projets ne participent pas d'un dopage technologique, comme certains commencent à en parler ? Parce que pour l'instant, je vous ai présenté un peu succinctement et laborieusement les projets, mais il y a l'idée aussi de biomédicaments, d'implants informatiques, etc. Il y a l'idée aussi de se coupler vraiment avec la technologie. Et donc, voilà, questionnons ces pratiques. Nous, il nous semble que ça participe d'une vision transhumaniste qui dit que les êtres humains, pour faire face aux défis sociaux, écologiques de l'époque, doivent s'augmenter, prétendument, entre guillemets, par la technologie pour faire face. Sans quoi on ne s'en sortira pas. Donc voilà, c'est les applications, des biotechnologies, etc., qui nous semblent être un imaginaire darwinien, éminemment capitaliste, et qui s'inscrit dans le besoin de rationalité morbide dans lequel nous sommes, de comptabilité et de s'arracher à notre condition charnelle, à notre condition de simple humain faillible, pour devenir voilà, une sorte de machine à triomphe.
Alors, pour le journal, vous avez conduit un entretien avec Jean-Marie Brome, professeur émérite de sociologie à l'Université de Montpellier 3, qui est l'initiateur de la théorie critique du sport et qui a été professeur d'éducation physique et sportive pendant 25 ans. D'après lui, quand est né le sport moderne au sens de l'institution, de la compétition sportive codifiée et de la professionnalisation, et quelles en sont les conséquences ? Vous les avez un petit peu abordées déjà, mais c'est intéressant d'avoir recul.
On va revenir un petit peu en détail là-dessus. D'abord, pour faire le lien avec ce que je commençais à dire, il nous semble que le sport et l'olympisme restent assez peu critiqués, encore qu'aujourd'hui, il nous semble que les JO de 2024 ne suscitent pas une grande adhésion. C'est plutôt une fatalité, bon, on va se les coltiner et puis au fond on sera bien content pendant 2 fois 15 jours. Je pense qu'il y aura quand même une grande adhésion, mais on la sent pas à l'heure actuelle. Difficulté à critiquer le phénomène sportif et olympique parce que manque d'une théorie critique, en fait, d'une perspective théorique qui nous permette de prendre distance avec ce qu'est le sport. Donc on a essayé de faire place un petit peu aux réflexions de Jean-Marie Brome et d'un certain nombre d'autres assez marginaux qui s'inscrivent dans un courant critique qui nous semble assez oublié aujourd'hui. Donc Jean-Marie Brome, à partir des années 60, voilà, met en place une œuvre philosophique, sociologique, anthropologique de réflexion autour du sport et il dit « Il n'est au mi-temps du XVIIIe siècle, autour de 1750, en Angleterre, parce que se met en place, à ce moment-là, il y a déjà l'invention du chronomètre. Il y a la mise en place de, comment, de la mesure métrique. Donc il y a une précision dans le calcul temporel et spatial de la performance sportive qui va avoir des incidences majeures par la suite, selon lui. Par la mise en place des fédérations. Alors les premières fédérations, c'est dans le foot, à ce moment-là, en Angleterre. Elles vont être exportées ensuite, je crois que c'est en 1780, on a une des premières fédérations au Havre. Hein, c'est pas un hasard. Fédérations qui vont avoir pour but la normalisation, l'encadrement de l'effort sportif. Fédérations qui vont ensuite devenir internationales à partir du début du XXe siècle. Deuxième point majeur. Et le troisième, la professionnalisation. Donc, professionnalisation des sportifs qui deviennent un capital que les patrons. Ça peut être les entreprises, ça peut être les États, les fédérations peuvent être considérés comme patrons, vont avoir pour but de valoriser. Voilà. Valorisation pour la puissance des États, valorisation économique, hein, principalement. Donc, on a ces trois points qui lui semblent fondamentaux. Ça ne veut pas dire que tout s'invente au 18e, ce serait fragile et un petit peu ridicule de l'affirmer. Évidemment que le sport a des racines plus anciennes. On pratiquait déjà des formes proto-sportives dans la Grèce antique, notamment, oui, avec les Olympiades antiques. Mais alors, il n'y avait pas le chronomètre, on avait le clepsydre. Il n'y avait pas une professionnalisation dans le sens de mise en capital des sportifs. Ça marchait avec du mécénat, notamment. Donc, on a déjà des choses qui se mettent en place depuis longtemps, c'est évident. Mais selon lui, il y a quand même une rupture historique, philosophique, au XVIIIe siècle, qui va déployer tous ses effets par la suite.
Et au Royaume-Uni, qui est de toute façon le premier à faire sa révolution industrielle.
C'est voilà, révolution, on pourrait parler même de contre-révolution industrielle à certains égards. Absolument, c'est dans le bastion du capitalisme industriel. Et on arrive à une situation où, je cite la définition du sport par le Conseil d'État. Hein, ce n'est pas une officine gauchiste quelconque. Il dit le sport, c'est un système institutionnalisé de pratiques compétitives à dominante physique, réglementé universellement, qui a pour finalité l'émergence du champion, du record, de l'exploit, grâce à la mesure normalisée, à la comparaison permanente et à la confrontation mondialisée des individus. Donc on comprend bien, cette définition est proprement remarquable, on comprend bien que quand on parle de sport, on parle d'une pratique corporelle bien particulière qui est inscrite dans des institutions qui canalisent notre rapport au corps, notre rapport à l'effort sportif. Donc il faut faire une différence essentielle, selon Brom, entre le sport et la pratique physique et l'effort physique. Voilà. Il dit que c'est deux choses différentes et le sport peut être vu comme une dépossession de nous-mêmes, un affaiblissement de notre rapport à notre propre corps, une aliénation, on va y revenir un petit peu par la suite, qu'il s'agirait de critiquer. Mais l'idée, c'est pas du tout de dire deux personnes qui jouent au ballon dans la rue, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. C'est au contraire de retrouver un rapport au corps qui puisse être joyeux, émancipateur, qui n'oppose pas les gens les uns les autres, qui ne nous mette pas dans un rapport de confrontation et de marchandisation de notre propre corps.
Oui, et Jean-Marie Brom dit aussi que le sport est devenu un instrument d'asservissement politique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il entend par là ?
Oui, par asservissement politique, il parle assez régulièrement de massification totalitaire des populations autour d'idoles communes. Il dit le sport, en gros, transforme les citoyens sujets en des supporters objets. Alors, je le cite, il dit il y a un rôle infantilisant et régressif des passions et vibrations sportives dont les principaux effets sont la dépolitisation, la diversion sociale et l'évasion onirique. Clairement, Panem et Sirkenzès, du pain et des jeux, le sport offre un divertissement qui empêchent les populations, disons, de s'intéresser aux affaires de la cité, à l'organisation politique, à la place qu'ils jouent, leur position sociale, et une mise à distance de cet ordre. Il dit, le sport est une culture de masse qui incarcère les gens, leur esprit, dans un cadre, dans le cadre dominant de la société, qui ne permet pas sa contestation, qui en renforce au contraire l'ordre, malgré que on puisse quand même dire que le sport permet à certains égards le rassemblement de personnes, l'organisation politique. Hein. On a souvent dit d'ailleurs, ceux qui défendent le sport disent, mais regardez les insurrections arabes en 2011-2012, on a vu des clubs sportifs, des clubs de supporters se réunir pour contester le régime. Voilà. Donc en effet, dans le sport, il y a quand même la possibilité de pratiques critiques qui restent, selon lui, marginales. Le fait majoritaire est un renforcement de l'ordre social.
Alors, vous avez déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même la redire. Hein. Il dit également que dans la perspective du corps sportif, la question n'est plus comment puis-je explorer mon corps et m'épanouir à son contact, mais qu'elle devient comment peut-on augmenter mon corps. Et peut-être vous pouvez un peu réexpliquer ou légèrement. Et puis dire aussi à quoi pourrait ressembler une pratique sportive qui soit émancipatrice.
Oui. En effet, comment augmenter son propre corps, en fait, selon nous, le sport nous met dans un rapport instrumental à nous-mêmes, à notre charnalité. Le corps, dans la pratique sportive, tend à être vu comme une frontière, comme une barrière qu'il s'agit d'outrepasser au service du rendement, au service de la performance. Le corps devient un support de rationalisation, on pourrait dire, qui se transforme en fait en son inverse, en quelque chose de complètement irrationnel, où on calcule, comme je le disais, les calories, le pouls, les constantes vitales, avec une montre ceci, avec un brassard cela. On voit que ça s'est énormément développé aujourd'hui avec les pratiques de jogging notamment. Les sportifs tendent à se technologiser et à transformer leur ressenti, leur sentiment de fatigue, de souffrance, etc., en des chiffres. Il y a une mathématisation des affects que le sport porte qui nous semble être un affaiblissement de notre rapport à nous-mêmes. Bon, donc il y a premièrement ça, et après il y a des conséquences interpersonnelles. Le corps est vu comme en confrontation avec les autres et non en coopération. Malgré les pratiques de collectives de sport, hein, qui changent rien au fond de l'affaire, et comme un renforcement des clivages aussi avec la nature, le sportif voit la nature comme une limite, parce qu'il y a de la pesanteur, parce que il y a du relief, parce que il y a de la résistance de l'eau quand on est nageur, et donc la nature est un adversaire duquel il faut triompher. Donc voilà, c'est à cet égard qu'on peut le critiquer. Et puis il y a des incidences sociales aussi. Le corps est soumis à une discipline répétitive, spécialisée, qui peut s'apparenter à la transformation du travail depuis deux siècles avec le prolétariat industriel ou même avec la tertiarisation des sociétés. Le sport accompagne la spécialisation de nos métiers, et en même temps nos métiers rendent le sport nécessaire comme un défouloir, comme un exutoire de la vie de bureau, de la vie d'usine, etc. Donc il y a un couplage entre sport et travail à notre époque.
Et entre sport et médecine, hein, puisque maintenant on fait des ordonnances, les médecins peuvent pratiquement faire des ordonnances sportives.
Hein. Absolument, voilà. Absolument. Voilà. Et donc pour le dire de manière un peu plus générale, pour nous, le sport est une institution majeure de reproduction de nos sociétés capitalistes, industrielles, qui ont le besoin d'accumulation infinie en leur sein. Voilà, c'est l'application au domaine de l'effort physique des rapports sociaux du capital. Donc vous me posiez la deuxième question nécessaire, en effet. Ouais. Et alors, une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réponse hyper claire, etc. Il faut tâtonner, il faut se parler, il faut discuter. À titre individuel, je pense que aujourd'hui, il s'agit peut-être d'ailleurs de reprendre un petit peu ce que des pratiques sportives ont pu développer. La possibilité de jeux, par exemple de foot, moi le foot me semble pas le diable incarné et indépassable. Je pense qu'on peut avoir des pratiques de foot qui remettent en question les règles, qui remettent en question les terrains bien cadrés, bien mesurés, qui remettent en question le besoin de victoire, qui remettent en question une pratique en championnat où il faut sans cesse triompher de l'autre. On peut avoir d'autres pratiques. Le football à 7 semblerait essayer d'ébaucher un petit peu ça. Ça me semble intéressant. Je pense que j'ai pas idée à éloigner ça de manière un peu rapide. Après, il me semble que aujourd'hui, on machinise énormément de nos déplacements, de notre vie quotidienne. On prend le métro, on prend un escalator ceci, on est dans l'ascenseur machin, on est dans la voiture là, et le soir, on a un abonnement à une salle de sport pour se défouler. Parce qu'on est incarcéré quotidiennement dans la machine. Donc moi, il me semble intéressant de peut-être dire il faut, quand c'est possible, je comprends bien que c'est difficile, d'avoir une activité physique dans l'organisation même de notre quotidien. C'est pas toujours, on bosse à 30 km, on va pas y aller forcément en vélo. Je comprends bien que ça pose un certain nombre de difficultés, c'est évident, mais peut-être qu'il y a des choses à avancer là-dessus. Et l'autre chose, c'est peut-être réinscrire des pratiques de marche, collective ou individuelle. Moi, l'alpinisme me semble intéressant aussi, si on n'a pas forcément pour but de gravir le Mont Blanc au bout de 6 mois ou de le voir comme un absolu. Des pratiques quotidiennes, etc., qui peuvent nous permettre d'exprimer nos facultés corporelles, et puis une écoute de soi dans un rapport non compétitif. Et ça, je pense que il faut juste faire preuve d'un petit peu d'imagination et de créativité.
Oui, et puis accepter que le sport, ce soit pour se faire plaisir et qu'on soit bien.
Enfin,
que ce
absolument.
Soit un bien-être à la fois personnel, un bien-être collectif, parce qu'effectivement, ça peut être sympa de faire un sport collectif, de partager des choses. Donc,
On pourrait se fendre un peu plus la gueule, avec le sport. Là, il semblerait que ce soit quand même, ce soit un peu lourd. Alors, je comprends les émotions que ça suscite, qui sont très importantes. Mais je pense que on pourrait rendre ça plus sympathique, plus drôle et plus épanouissant dans ce que l'activité physique nous fait comprendre de nous-mêmes, en fait.
Oui, ou par exemple, on peut aussi aller en manifestation. Ça a pu être ces dernières années parfois sportif dans un sens émancipateur.
Très bien
du
dit.
Terme.
Et la dernière chose, peut-être, je suis désolé, c'est peut-être aussi de se cultiver sur le sujet, de lire. Je peux refaire de recommandations de lecture, peut-être. D'un côté, sur les Jeux Olympiques, je conseillerais la lecture de 2024, les JO n'ont pas eu lieu, d'un architecte et sociologue philosophe qui s'appelle Marc Perelman. Je vous conseille cette lecture. Et puis après, je peux vous recommander deux ouvrages de Jean-Marie Brome. Le Seigneur des Anneaux, qui vient d'être réédité. Le Seigneur des Anneaux, c'est Pierre de Coubertin. Et Le Mythe Olympique. Voilà. Ce sont deux ouvrages qu'on trouve en librairie. Sinon, on les commande. Et puis, on peut suivre aussi la revue à laquelle il participe, qui s'appelle la revue Quel sport.
Merci beaucoup, Gary. Alors, dans ce journal, dans ce numéro 11, il y a énormément d'articles très intéressants sur d'autres aspects. Il y en a aussi dans le numéro 10 sur l'urbanisme. Donc peut-être, si vous nous y autorisez, on fera peut-être une chronique en reprenant un certain nombre d'informations sur ces autres aspects, la sécurité, le travail, pas mal de choses.
Voilà, et alors dans notre dossier, on aborde aussi la question de l'embauche des sans-papiers. On montre que les syndicats se sont gaussés dans la célébration, que les Jeux Olympiques étaient les plus éthiques en termes de droits du travail, etc. Ils ont signé la charte sociale des Jeux Olympiques qui nous semble un scandale, quoi. On a aussi un jeu, on détourne un trivial poursuite en Jeux Olympiques, on a une bande dessinée où l'astrophysicien de l'équipe en reconversion vers l'illustration raconte ses rapports à Pôle emploi. Et la manière dont Pôle emploi met la pression pour recruter des agents de sécurité, oui, voilà, qui font largement défaut. On traite le côté la mise au pas dans l'éducation de la culture avec le label Olympiade culturelle, la question de la sécurité aussi qui est un peu plus connue avec la vidéosurveillance, etc. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout, il n'y a pas que de la critique un peu lourde, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Gary. Donc, tout ça se trouve dans le numéro 11 du journal Le Chiffon. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, que le journal Le Chiffon est un journal indépendant à caractère à couverture régionale couvrant l'Île-de-France. Vous aurez toutes les informations sur le site lechiffon.fr. Pour les Chavillois, sachez qu'il est distribué dans au moins deux points localement. Il y a l'imprimerie Polygraphe en bas de l'avenue Roger Salengros et puis il est également au tabac de la Mairie. Merci pour tout. C'est la fin de cette émission de Radio VCE. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Jeannette Embord avec toute l'équipe. À très bientôt.